Lundi 8 juillet 2019, messieurs, dames, vous êtes bien en direct sur le studio Kalangou. Il est 18h, l'heure du journal en français. Merci de rester à l'écoute. Diallo Mariama Kenda au micro, au sommaire. Fin hier soir à Niamey des travaux du 33e sommet de l'Union africaine. C'est avec le lancement officiel de la ZELECAF, la zone de libre-échange continentale africaine, que les différents chefs d'État se sont quittés. Les détails dans ce journal. Les jeunes leaders africains des Nations Unies pour l'environnement se penchent à Niamey sur les effets du changement climatique en Afrique et au Sahel. Un forum de discussion qui a débuté ce matin, c'est dans le cadre du 33e sommet de l'Union africaine. Enfin, comme tous les lundis, dans votre rubrique sur les questions de droit, notre magistrate nous éclaire sur comment un parent peut obtenir la garde de son enfant une fois le divorce ou la répudiation prononcée. Bonsoir et bienvenue à tous. Les rideaux sont tombés hier soir sur les travaux du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey, un sommet extraordinaire qui a vu le lancement officiel de la ZELECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Aseto Kanté du studio Tamani du Mali, qui séjourne au studio Kalangou du Niger, dans le cadre des échanges des deux projets de la Fondation Hirondelle.
C'est parti désormais pour la zone de libre-échange continentale africaine, ZELECAF. Cette zone va augmenter le commerce intra-africain et le développement du continent, nous explique Issoufou Mahamadou, président du Niger et champion de la ZELECAF.
Si nous voulons que les matières premières enrichissent l'Afrique, il faut transformer ces matières premières. C'est cela aussi qui permettra de renforcer, d'augmenter le commerce intra-africain. Tous les défis sont bien identifiés et ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté politique derrière, d'avancer, de mettre fin à l'affaiblissement de notre continent, la nécessité de nous unir.
L'adoption d'une feuille de route par les chefs d'État et de gouvernement a également été dévoilée, ainsi que la mise en place de 5 instruments. Il s'agit entre autres des offres tarifaires en ligne, le système de paiement numérique et l'Observatoire africain du commerce. Cependant, les responsables de la ZELECAF ont mentionné un important défi à relever, c'est celui de la sécurité. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, l'insécurité est en train de donner un coup dur au commerce en Afrique. Moussa Faki Mahamat.
Nous sommes en plein Sahel et vous savez ce que cela coûte parce que vous le vivez au quotidien. Le commerce est bloqué du fait de l'insécurité. Et la réponse doit être globale et notamment à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies dont c'est la vocation.
Autre grande conclusion de cette rencontre, c'est celle du choix porté sur le Ghana d'abriter le siège du secrétaire permanent de la ZELECAF. Il a aussi été indiqué que c'est dans un an que la zone de libre-échange continentale va débuter, c'est-à-dire le 1er juillet 2020.
54 pays ont signé le test, 27 l'ont ratifié, seule l'Érythrée n'a pas encore signé. Sur 55 pays africains, la zone de libre-échange continentale ZELECAF a eu l'approbation de 54 pays. La majorité des pays signataires sont d'accord sur un taux d'ouverture de leur marché à 90%, a déclaré le président nigérien Issoufou Mahamadou hier en répondant aux questions des journalistes à Niamey lors de la clôture du sommet de l'UIA sur la ZELECAF.
Il y a eu un accord cadre qui a porté sur le commerce des marchandises, sur la libéralisation des services et sur le règlement des différends. Sur les 54 pays qui ont signé, il y a 48 pays qui sont d'accord pour un taux d'ouverture à 90%. Et le Nigeria, en signant, n'a exigé aucune concession. Ça veut dire que chaque pays accepte d'ouvrir son marché à hauteur de 90%. Il y a des listes tarifaires, des listes de marchandises, etc. qui sont bien définies. Et sur ces listes-là, 90% des listes vont être ouvertes à la libéralisation du commerce à partir du 1er juillet, puisque c'est le 1er juillet que les échanges dans la pratique vont réellement commencer. Il n'y a eu que 6 pays qui ont émis des réserves par rapport au taux d'ouverture à 90%. On a trouvé là également un consensus avec ces pays-là qui vont démarrer avec un taux d'ouverture de 85% et auquel on donne 15 ans pour aller vers une ouverture de 90%.
Propos recueillis par Adama Danwaki. Un symposium international a regroupé jeudi 6 juillet à Niamey en marge du sommet de l'Union africaine, expert ministre de la Santé et première dame sur le fardeau du cancer en Afrique. Les premières dames, dans une déclaration dite de Niamey, exhortent les chefs d'État à taxer les produits cancérigènes comme le tabac et l'alcool pour prévenir le cancer. Sika Bella Kabore, première dame de Burkina, sur les propos recueillis par Adama Dawaki.
Convaincue que si rien n'est fait, la mortalité due au cancer doublera d'ici 2040 en Afrique. Nous, Première Dame d'Afrique, lançons un appel à la communauté internationale, à l'Union africaine, pour soutenir les initiatives à haut impact dans la lutte contre le cancer. Aux pays africains de favoriser la recherche de technologies adaptées et la formation de ressources humaines de qualité aux chefs d'État et de gouvernement afin qu'ils garantissent le leadership dans la prévention des facteurs de risque du cancer, notamment en augmentant les taxes sur les produits cancérigènes tels que le tabac, l'alcool et qu'ils améliorent la prise en charge du cancer.
Les jeunes leaders africains des Nations Unies pour l'environnement sont à Niamey dans le cadre du 33e sommet de l'Union africaine. Ce matin, ils étaient dans un forum de discussion sur les effets du changement climatique en Afrique et au Sahel. Adamou Oumarou, membre du Rojalnu, explique le rôle de la jeunesse dans la lutte contre les effets du changement climatique. Il est au micro de Asmana Chine.
Il s'agit de voir quel est le rôle que la jeunesse peut jouer en matière de lutte contre les effets néfastes du changement climatique, en matière de résilience des communautés et aussi de voir quelle contribution cette jeunesse peut apporter aux États, aux grands projets de la Muraille verte africaine et surtout au niveau des pays du Sahel. Il s'agit aussi à partir de ça de faire des recommandations, de faire un appel qu'on appelle l'appel de la jeunesse africaine à partir de Niamey et qui sera transmis au président de la République qui doit remettre ça dans les prochains jours, dans les prochains mois, à l'Assemblée générale des Nations Unies avec une délégation du Rojalnu ODD Afrique.
Quelle peut être la contribution de la jeunesse dans la lutte contre le changement climatique?
Là, aujourd'hui, nous savons qu'il y a des jeunes déjà qui organisent certaines activités, telles que des activités de reboisement, des activités de sensibilisation sur les résiliences des risques de catastrophes. Et nous avons vraiment des contributions surtout à l'agroécologie.
11 chefs d'État africains sont à Niamey ce matin en marge du 33e sommet de l'Union africaine pour lancer le processus de concertation et de coordination entre la commission de l'UIA et les commissions économiques régionales. Une occasion, selon le président nigérien Issoufou Mahamadou, d'échanger avec les dirigeants pour mieux appréhender toutes les voies qui s'offrent à eux afin d'améliorer l'efficacité du processus d'intégration africaine. Handicap, droit et développement durable, c'est le thème de la conférence organisée ce matin à Niamey par les ministres en charge des personnes en situation de handicap d'Afrique dans le cadre du 33e sommet de l'Union africaine. Cette rencontre a permis à la ministre nigérienne de la population de faire le point de la population handicapée du Niger et d'appeler à son inclusion dans la société, la ministre Asseta Amadou.
Au Niger, depuis les années 60, plusieurs textes ont été pris, notamment sur l'indigénat, l'éducation spécialisée, la prise en charge sanitaire à 100% pour les groupes vulnérables, le quota de 5% des emplois aux personnes handicapées. Ces droits ont été consacrés et améliorés. L'objectif de cet événement est donc de contribuer au renforcement de l'inclusion de cette frange souvent négligée de nos populations en invitant nos dirigeants à s'engager davantage pour une meilleure prise en compte de leurs besoins.
Propos recueillis par Habibou Garba. Vous avez suivi vendredi le secrétaire général des réfugiés maliens sur nos radios partenaires qui déplorent leurs conditions de vie au Niger et le manque d'assistance du UNHCR. Réaction du Haut Commissariat pour les réfugiés. Pour le chargé des relations extérieures du HCR, Benoît Morino, la prise en charge des réfugiés se fait sur la base de vulnérabilité. Benoît Morino, chargé des relations extérieures du HCR, au téléphone d'Assetou Kanté.
Alors, prise en charge se base sur la vulnérabilité. Et c'est pareil pour tous les réfugiés maliens qui sont dans les camps à Tillabéri ou à Tawa. Au niveau de Niamey, il n'y a pas de distribution alimentaire. Et ça, c'est pas le propre des réfugiés maliens ici à Niamey, mais le propre des réfugiés dans la plupart des capitales à travers le monde. C'est tout le temps très, très dur d'organiser des distributions alimentaires dans un contexte urbain. Il y a la possibilité aussi que ça encourage d'autres personnes à s'inscrire comme réfugiés alors qu'ils ne sont pas réfugiés. Donc, il y a un panel social au niveau du guichet unique qu'on trouve au niveau du pavé d'Arsalam qui analyse de manière individuelle les besoins des réfugiés maliens. Si c'est un besoin en santé, si c'est un besoin en logement, si c'est un besoin en éducation. Et sur cette base, il y a un accompagnement spécifique qui se fait. Après, ce qu'il est important de prendre en considération, c'est que les réfugiés maliens sont arrivés en 2012. On est à 7 ans et donc à une période où les financements pour accompagner les réfugiés maliens sont excessivement réduits. Parce qu'il y a beaucoup de crises et aussi il y a un essoufflement des bailleurs de fonds.
Un agriculteur a été battu dans son champ par des individus inconnus au village de Gonga, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Baléyara. C'était le samedi. Moussa Sédoua Gali, secrétaire général de la préfecture de Baléyara, explique au micro de Hassan Momoni.
L'information que nous avons reçue sur cette personne qui a perdu la vie, c'est un agriculteur qui, juste après la prière de 16 heures, s'est rendu dans son champ. Il a constaté que des animaux ont causé des dégâts. Pour une personne qui a déjà perdu la vie, nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui s'est passé. Certes, il a été battu et ceux qui l'ont battu ont fui. À l'heure où je vous parle, nous sommes à leur recherche. C'était hier aux environs de 10 heures qu'une personne de passage a remarqué la présence du cadavre. Voyez-vous, nous ne connaissons pas ce genre d'acte dans notre contrée. Cependant, cela ne veut pas dire que les communautés s'engagent à s'affronter entre elles. L'autorité fait de son mieux. Nous avons envoyé la patrouille dans le secteur. D'autres personnes sont parties à la recherche de ceux qui ont commis ce forfait. Si elles trouvent une personne qu'elles soupçonnent, c'est de nous appeler et nous informer immédiatement.
Soulignez que cet agriculteur a été abattu au nom de Bati au lieu de battu, comme annoncé tout à l'heure. La partie magazine de ce journal, à présent, le divorce ou la répudiation. Une fois prononcé, le juge doit statuer sur la garde des enfants. S'il y a des enfants, l'enfant sera ainsi confié à l'un des parents considéré comme le plus responsable et qui sera déterminé à la suite d'une enquête effectuée par un travailleur social sur ordre du juge. Cependant, la garde n'est pas éternel, on peut, au cas où l'on constate une évolution négative dans la vie des parents, les retirer pour les confier à un autre parent, souligne la magistrate Goji Memouna Kazibo.
En cas de divorce ou de répudiation, il revient au juge de statuer sur la garde des enfants en tenant compte de leurs intérêts. Une enquête sociale et de moralité est effectuée pour déterminer le parent capable de bien entretenir les enfants, explique la magistrate Goji Maimouna Gazibo.
Que ce soit la répudiation, que ce soit le divorce, lorsque c'est prononcé, le juge doit statuer s'il y a des enfants sur l'avenir des enfants, en tenant essentiellement compte sur leur intérêt supérieur. Lorsque le juge estime, par exemple, que le père a les moyens, mais que c'est un père délinquant, il lui est fait interdiction de lui confier les enfants. Lorsque la mère, elle n'est pas de bonne moralité, il est interdit au juge de lui confier la garde des enfants.
Comment peut-on savoir que c'est un parent irresponsable?
Avant de prononcer la garde des enfants, le juge autorise un travailleur social à faire une enquête à la fois sur le père, mais sur la mère également. Les éléments du rapport vont permettre au juge de savoir des deux parents qui présentent une meilleure sécurité à la fois morale et financière pour l'enfant. Si, par exemple, le père ne représente pas une garantie pour l'enfant, la garde va être confiée à la mère à charge pour le père sur la base de son salaire. Dans l'imaginaire collectif, on estime qu'un enfant de 1 an, un enfant de 2 ans doit impérativement être confié à sa mère. Non. Si il est attesté que malgré qu'elle soit la mère, malgré que l'enfant n'a que 2 ans, cette femme ne représente pas de garantie sérieuse pour éduquer un enfant, l'enfant va lui être retiré et confié au père. Également, dans notre imaginaire collectif, un père célibataire ne devrait pas garder ses enfants. Si dans l'enquête de moralité, il est prouvé que le père, malgré qu'il n'est même pas une autre femme, est beaucoup plus responsable, même les enfants de 2 ans peuvent lui être confiés. Lorsque la garde est confiée, il est important de retenir qu'elle n'est pas permanente. On peut confier la garde à la mère, mais à l'épreuve des faits, on constate une évolution négative de la vie des enfants. Ce qui est conseillé, il faut saisir le juge. Parce que si vous vous encouvrez dans le domicile des parents de votre ex-partenaire ou chez son nouveau conjoint, il peut porter plainte contre vous pour violation de domicile, malgré que vous avez voulu simplement secourir vos enfants.
Quelles sont les sanctions réservées aux parents qui refusent de verser la somme demandée pour entretenir ses enfants?
Par décision de justice, on peut les contraindre en coupant leur salaire à la base. Et d'ailleurs, toutes les fois où vous abandonnez un enfant, on peut vous poursuivre pour abandon d'un enfant qui est un délit.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite Michel Déji dans le forum de Studio Kalangou. Il vous parle de l'épreuve de philosophie au baccalauréat du Niger. Comment y faire face?